Françoise Trossard et la belle équipe, en piste pour la récré littéraire, à l'affiche Joli Dimanche et le catalogue des objets pour vous inutiles, suivi des manipulations littéraires sur la vache d'Hugo avec un dico de psycho par Éval Massy.
Le vieillard, paradoxalement, ça donne la virilité. C'est consolant pour le vieillard. Alors, il a beaucoup de chance parce qu'il va s'asseoir sur la sexualité, a-t-il dit.
Non, avec sa virilité. Oui. Place ensuite au petit rimailleur pour le mot rentrée et à la chronique de Patrice Delbourg. Quand un papou lit un autre papou, papou Delbourg lit papou Joncourt.
Dora, au milieu de la clairière, de longues jambes de contrebande, un pétrousquin d'anthologie impeccablement moulé dans son jean, et aussi, oui Eva, un troublant timbre hongrois.
Oui.
C'est dans le livre.
Puis nous jouerons à mots couverts avec Odile Conseil, Jean-Bernard Pouy, Ricardo Meusner. Et pour finir, le droit de réponse d'un héros invisible avec Patrice Minet et Lucas Fournier. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58. Un numéro des Papous à télécharger pendant un an sur franceculture.fr ou à réécouter à la page du jour pendant 1000 fois 24 heures. C'est dimanche, le temps des Papous dans la tête. Et ce jour si particulier mérite bien un nouvel hommage, Joli Dimanche à la manière de, par Lucas Fournier.
Le Joli Dimanche de l'abbé Combescure, selon Alphonse Daudet.
Ah.
L'abbé Combescure n'aimait pas la semaine. Chaque jour que Dieu fait, il se levait matin pour aller dire sa messe dans la vieille église de Cucuron-les-Jujubes, avec pour seule paroissienne la veuve Moustelou et deux petites souris grises. Mais le dimanche, miséricorde, tout Cucuron courait à la grand-messe. C'était un défilé, un carnaval de toilettes du dernier cri provençal. Et les foulards épandus sur la tête des femmes donnaient à la petite église des grands airs de bazar de Constantinople. Ce matin de Pâques, l'église était pleine comme une coucourde. Et l'abbé Combescure, juché en chaire, haranguait ses fidèles. Avec quel bonheur il posait sur leur visage son regard bienveillant. Même le pape d'Avignon, devant ses ouailles, n'éprouvait pareille félicité. Dans la ferveur de l'homélie, Combescure fit un geste. Un grand. Il y eut un craquement sinistre. La chair est faible, hélas, et celle-là céda d'un coup affreux. La veuve Moustelou reçut sur son chapeau à plumes l'escalier, la cuve, le palanquin et l'abbé. Et les cucuronnés virent alors deux petites plumes, celles du chapeau de la défunte veuve, s'envoler vers la croix de Jésus qui ouvrait tout grand les bras, avec un regard qui semblait dire « Quel joli dimanche pour ressusciter avec moi !»
Dans notre série « Je répertorie, tu classes », il ou elle fait l'inventaire, le catalogue des objets que vous trouvez inutiles pour vous. Peut-être certains en ont-ils l'usage, mais vous, quand vous les rencontrez, vous n'éprouvez qu'indifférence à leur égard. Une passoire, mais pour quoi faire? Un tournevis, mais dans quel sens on tourne? Votre dédain serait-il causé par votre maladresse à vous servir de ces objets? À voir. Avec Odile Conseil, Jacques Jouet, Jean-Bernard Pouy, Lucas Fournier et Patrice Delbourg. Voilà, une première chose inutile pour vous, Jacques Jouet.
La petite laine. Ouais. Vous sortez le soir sur la promenade avec une petite laine. Soit vous n'en avez pas besoin et elle vous embarrasse, soit vous auriez eu besoin d'une grosse laine.
Oui, ouais. Donc la petite laine, elle est toujours fautive, quoi.
Et oui.
Lucas Fournier, vous avez comme ça des objets qui ne vous conviennent pas?
Oui, par exemple, un objet simple, c'est le marque-page. Et le marque-page, ce flic moralisateur du livre. Oui. Il me montre d'emblée tout ce que je n'ai pas encore lu. Ah, t'as pas fait beaucoup d'efforts, hein. Tu en es 4 ans à la page 30. Ou alors, au contraire, il m'annonce la très mauvaise nouvelle quand le livre est magnifique, comme le dernier livre de Serge Joncourt, par exemple.
Oui.
Voilà, il ne reste plus que quelques pages avant la fin. C'est épouvantable. Et donc, je préfère apprendre les bonnes et les mauvaises nouvelles tout seul, sans cet avertisseur. Et au pire, je préfère un marque-page sauvage.
C'est-à-dire une carte postale, un
une
crayon,
carte postale, un
ticket
timbre,
de métro.
Un billet de
la
métro,
page, le coin de la page.
Ou le coin de la page, ou retourner le livre.
Oui, oui. Mm. Patrice Delbourg.
Alors, s'il y a un objet qui est vraiment ridicule, c'est le porte-monnaie.
Ah bon ? Pourquoi ? Oui. Parce que vous n'avez pas de fric sur vous,
non,
jamais.
Mais non, le porte-monnaie, vous savez, ces petits porte-monnaies qu'on ouvre en deux, avec la monnaie qui glisse sur un coin de la coupelle, c'est misérable. Quand vous donnez un SDF, vous n'allez pas ouvrir votre porte-monnaie. Quand vous faites un flipper, vous n'allez pas ouvrir un porte-monnaie. La monnaie, c'est fait pour raboter le fond des pantalons.
Et faire des trous, en l'occurrence.
Et faire des trous, poches, c'est ça le plaisir. Non, alors les porte-monnaies...
Vous dites le conseil.
Si on considère qu'une petite souris qu'on remonte avec une clé avant de la laisser déambuler sur le parquet pour amuser ou affoler le chat est un objet courant, alors il m'est inutile, je n'ai pas de chat. En revanche, je crois bien que j'ai chez moi une souris, c'est vrai.
Ça pourrait faire une copine, monsieur Pouy.
Le scotch double face.
Ah bon ?
Parce que j'avais été foutu de le désincarcérer de son étui, et puis pour le couper, l'appliquer, ça colle au doigt, ça reste toujours... Et surtout, c'est plein de poussière, de poils, et quelquefois d'autres trucs, on ne sait pas trop ce que c'est. Quoi. Donc je préfère ne plus utiliser de ce que je me fasse.
Patrice ?
Alors s'il y a une chose vraiment ridicule, c'est la demi-bouteille de vin sur la table de restaurant.
Ah, c'est vrai.
Alors là, quand on arrive... En plus, quand elle vous attend, on s'assoit comme ça... Alors, c'est ridicule. D'abord, elles sont moins bonnes, les demi-bouteilles. Elles sont bouchonnées, elles sont piquées. Et puis, pour en redemander une autre tout de suite après, une demi-bouteille, deux fois plus chère, merci bien. Enfin, non. C'est les petits repas dominicaux, chiches familiaux. Ça rappelle vraiment les années Pierre-Ponce.
Jacques Jouet.
Le gant de toilette qui n'est jamais propre. Il faut toujours faire la toilette au gant de toilette. Et qu'est-ce qu'on utilise pour faire la toilette au gant de toilette ? La main. Alors pourquoi ne pas supprimer un intermédiaire et faire sa toilette à main nue ?
Ben oui, qu'on se le dise, Lucas Fournier.
Un gros objet, c'est le convertible ou le clic-clac. Ah. Vous savez, ce mécanisme rotor qui nécessite une agrégation de physique pour en comprendre la subtilité. Cet appareillage qui vous démantibule les lombaires quand vous essayez de le mettre en place. Cette mécanique qui vous broie les phalanges avec ses mâchoires d'acier, ce matelas écrabouillé sur lequel 20 derrière viennent de s'asseoir et qui va devenir là votre lit, votre espace vital, peut-être même votre lit de mort. Mais c'est une abomination. Non, je n'en veux pas.
Un cercueil clic.
Monsieur Pouy.
Le tabouret. Qu'est-ce qu'il y a de plus nul, inconfortable, laid et inutile qu'un tabouret ?
Ah bon, non, je
Alors qu'une chaise payante prend moins de place quand on la plie. Et surtout, à notre âge, il vaut mieux pas grimper sur un tabouret pour changer l'heure de la pendule.
À ton
parce
âge.
Que c'est l'heure d'hiver. Et là, c'est le col du fémur garanti.
Non, mais là, vous parlez pour vous. Oui. Et le tabouret du pianiste.
Ça, c'est nul. Ça. C'est le truc à vis, là.
Ouais.
Oh, mais non, mais pourquoi ils m'envoient une chaise debout, non ?
Patrice Delbourg, un objet ?
Oui, enfin un objet, un mets, toujours sur la table, parce qu'il y a beaucoup de choses ennuyeuses sur une table de restaurant. Par exemple, le yaourt. Le yaourt avec la confiture dessus. Vous voyez, le yaourt à mélanger.
Oui.
Moi, je n'ai jamais mélangé un yaourt. Je mange ce qu'on me donne, par exemple.
Dans l'ordre.
Dans l'ordre. D'abord la confiture, ensuite la crème. On n'est pas là pour touiller son yaourt, on est là pour l'absorber.
Non, mais tu es un homme d'ordre, tu as toujours refusé le compromis, c'est ça hein ?
D'ordre.
Dit le conseil.
Le rouleau à pâtisserie. Ouais. Parce que pour en avoir l'usage, il faut avoir à la maison l'homme qui mérite qu'on le lui fracasse sur la tête. Personnellement, je n'ai pas ce spécimen. Et pour le reste...
Tu ne sais pas tout.
Elle se vante.
Et pour le reste, qui utilise encore un rouleau à pâtisserie pour faire des tartes ?
Pour faire de la pâte à pizza ou...
Mais vous ne l'achetez pas toute faite ?
Mais non.
Mais non. Faut l'étaler.
C'est pour ça que vous n'avez pas d'homme à la maison,
mais
madame.
Mais nous sommes différents. Non, je n'ai pas cet homme-là.
Vous savez que la cuisine retient les petits hommes qui se débinent, hein ? Jacques Jouet.
La jaquette d'un livre qui cache une couverture. Ou pire encore, qui se contente de la protéger. Ah, l'affreux rhodoïde de la Pléiade, comme un préservatif usagé sur la couverture en peau. Pire encore, le coffret. Les deux volumes sous coffret, qu'on n'arrive pas à sortir de la boîte. Ah, c'est à vous dégoûter de lire.
Bon, il est très en colère, Jacques Jouet. Jean-Bernard Pouy.
Je déteste les semainiers. De répartir le dimanche soir les médicaments dans les petits trous correspondant au jour de la semaine, c'est totalement déprimant.
Patrice.
Pire que le porte-monnaie, la pince pour attacher les billets de banque.
Ah, ça, c'est horrible. Oui.
Alors ça, vous l'avez souvent, elle est en argent, avec initialé, ça fait vraiment notaire de Draguignan. C'est épouvantable. Il y en a beaucoup, plus qu'on ne pense.
Oui, hein. C'est parce que vous
les gars qui
pas
sortent
billets,
leur fafio, bah, j'en ai jamais plus de deux, donc j'ai pas besoin d'en les attacher.
Jacques Jouet.
L'aspirateur ménager, que je ne confonds pas avec l'aspi-venin, qui lui est très utile et beaucoup moins bruyant. L'aspirateur, inutile, parce que le balai, la balayette, tout simplement la main pour rentrer les moutons sous le canapé, est tout aussi efficace.
On comprend pourquoi on n'est jamais invité chez Jacques Jouet. Hein. J'ai plus envie. Patrice.
L'embauchoir à chaussures. Alors ça vous ruine les ribouilles, ça vous déforme le cuir, ça casse la pompe, on trébuche dessus dans le noir, etc. C'est un bel objet, mais qui ne sert à rien.
Non, mais c'est parce que vous avez des pieds bizarres et complètement déformés, donc vous avez peur que l'embauchoir les restructure.
Je n'ai pas des très jolis pieds, ça c'est vrai.
Oui. Odile Conseil, qu'est-ce qui vous agace ?
Pour moi, totalement inutile, le bip d'ouverture de la porte du parking de mon immeuble, essentiellement parce que je n'ai pas de parking. D'ailleurs, pourquoi en aurais-je, puisque je n'ai pas de voiture ?
Bah comme ça, c'est dit, c'est clair. Jacques Jouet.
Le casse-noix, toujours trop gros ou trop petit pour les noix, qui écrabouille les noisettes et les pinces de homard, et ne vaut rien, mais alors rien du tout pour la noix de coco.
Ah bah, oui. Évidemment. Patrice.
Les bijoux. Tous les bijoux, n'importe quel bijou, les chaînes, les gourmettes, les bagouses, ça fait herbe de Noël. La peau, bon sang, la peau nue, le hâle, le duvet, une belle phalange, comme on disait en Espagne à une époque, une phalange nue.
Bon, cachez votre bague, Odile. Un objet qui est complètement inefficace pour vous, Lucas Fournier.
C'est pourtant un cadeau délicat par excellence et qui fait toujours plaisir, c'est la bougie parfumée.
Oh ben oui.
On en a plein dans la maison, oui. Une odeur douceâtre, une texture fragile, donc s'il fait clair, on n'a pas besoin de bougie, s'il fait nuit, on allume, et si on a besoin d'aérer la pièce, on ouvre la fenêtre, oui, et la bougie s'éteint. Bon.
Gratte d'eau, même si elle est un peu froide. J'aime bien ta petite main de jade. J'aime bien ta petite main au bout de sa canne de bambou. Gratte d'eau, lime à ongles. Malgré le travail à faire, j'aime bien ta petite langue de fer. Bien que de classe laborieuse, j'aime bien ta petite langue râpeuse. Lime à ongles, dedans. J'aime bien ta petite tête de bois et te rouler dans mes doigts. J'aime bien ton petit bout de sapin quand j'ai mangé du lapin. Cure-dent. On emmène dans une valise, on emmène, je n'en viens pas. On emmène dans une valise, même dans une petite comme celle-là.
Thomas Fersen, gratte d'eau.
Les papousses dans la tête sur France Culture.
Et c'est l'heure des manipulations littéraires. Selon la méthode dite du S plus 7, où il s'agira pour la manipulatrice Eva Almassy de remplacer dans un célèbre, magnifique, bucolique poème de Victor Hugo chaque substantif par un autre, situé 7 substantifs plus loin, dans un certain dictionnaire. Évidemment, le résultat obtenu sera très différent selon le choix du dictionnaire. D'argot, de gastronomie, du cinéma, tous les dictionnaires sont les bienvenus pour cet exercice, même celui du fromage. Et le plus souvent, vous verrez, la musique de l'auteur résiste à ces étranges manipulations. Alors, on écoute d'abord l'original de Victor Hugo, et c'est Jacques Vallée qui le lit.
La vache. Devant la blanche ferme où parfois vers midi un vieillard vient s'asseoir sur le seuil attiédi, où cent poules gaiement mêlent leurs crêtes rouges, où gardien du sommeil, les dogues dans leur bouge écoutant les chansons du gardien, du réveil, du beau coq vernissé qui reluit au soleil, une vache était là, tout à l'heure arrêtée, superbe, énorme, rousse et de blanc tacheté, douce comme une biche avec ses jeunes fins. Elle avait sous le ventre un beau groupe d'enfants. D'enfants aux dents de marbre, aux cheveux de broussailles, frais et plus charbonnés que de vieilles murailles, qui, bruyant tous ensemble, à grands cris appelant d'autres qui, tout petits, se hâtaient en tremblant, dérobant sans pitié quelques laitières absentes, sous leurs bouches joyeuses et peut-être blessantes, et sous leurs doigts pressant le lait par mille trous, tiraient le pis fécond de la mère aux poils roux. Elle, bonne et puissante, et de son trésor plein, sous leurs mains par moments faisant frémir à peine son beau flanc plus ombré qu'un flanc de léopard, distraite, regardait vaguement quelque part.
On la voit, la vache, avec Jacques Vallée. Hein, il fabrique de l'image, il a pris son ton tendre. Vous aimez bien les vaches, non?
Oui, ben j'ai écrit un petit recueil de poèmes, un poème qui s'appelle « La vache folle parle ».
Ah, vous faites parler les vaches?
Oui.
Ah oui, donc c'est bien. Alors, Éval Massy, vous êtes amusée à manipuler ce poème de Hugo avec un certain dictionnaire, on peut savoir lequel?
Eh bien, c'est un dictionnaire de psychologie par Larousse, avec une belle illustration du test de Rorschach au-dessus qui donne le ton. Et c'est de 1967, donc certaines choses sont un petit peu démodées, mais loin quand même d'Hugo.
D'accord, vous pourrez nous expliquer des petites choses sur la psychologie.
Ce poème, je vais le faire parler aussi exactement comme dans la lecture de Jacques Vallée, puisque je vais la psychanalyser.
La vache?
Mais oui.
Ah oui. Ah oui, non seulement elle est debout avec ses petits sous-ailes, mais en plus elle est sur le divan.
On le voit. Mais parfois il fait le divan quand c'est en cuir. Alors, de vache. Donc c'est...
Est-ce que vous touchez à Victor Hugo ou on garde
non,
le nom?
Non, non, non.
On garde Victor Hugo.
Je garde.
C'est bien, mais par contre la vache disparaît.
La vache devient la verbigération. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un bavardage incessant. Donc, moi, je pensais que ça allait très bien avec les ruminants, n'est-ce
ah
pas?
Oui.
On rumine,
on
redit sans cesse la même chose, on verbigère.
Mm-hmm. Et alors, aller devant la blanche ferme?
Devant la blanche forme. Mais forme en psychologie, c'est une structure, c'est la gestalt psychologie, c'est Merleau-Ponty, ça vole haut la forme.
Ah oui, oui, on va en apprendre des choses.
Oui, on est loin de la vache.
Le vieillard, c'est quoi le vieillard?
Le vieillard, paradoxalement, ça donne la virilité. Alors c'est consolant
c'est
pour le vieillard.
Cool, ça.
Il devient carrément la virilité.
Alors il vient s'asseoir sur le seuil attiédi.
Alors il a beaucoup de chance parce qu'il va s'asseoir sur la sexualité attiédie.
Non, avec sa,
sa virilité.
Virilité,
oui. Je ne vous donne pas la définition quand même. Vous non, imaginez que la sexualité est très compliquée
voilà,
en
et
matière de psychologie.
Ne faites pas le dessin non plus.
Hein, d'accord.
Ou sans poules. Alors les poules gaiement mêlent leurs crêtes rouges. Les poules, les crêtes.
Comme ça, un dictionnaire savant, parfois ce n'est pas un substantif, c'est une expression. Mmh. Donc ça devient ou sans principe de réalité.
Ça, c'est les poules.
Ça, c'est les poules. Et je pense que ça leur va bien aussi. Principe de réalité, elles sont très, très réelles, les poules.
Bah oui, elles font des œufs.
Oui.
Et les crêtes?
Les crêtes, ça devient des culpabilités. Donc, des culpabilités rouges.
Voilà, on va très bien aussi. Vous approuvez, Patrice Delpont?
Ah bah, souvent, la crête résulte d'une culpabilité. En médecine.
Alors, les gardiens du sommeil, les dogs dans leur bouche, ça devient quoi?
Alors, les gardiens, ça va être des génies. C'est peut-être pas toujours le cas, mais
non.
Ici, oui, ça devient carrément des génies. Par contre, du stéréotype.
Ça, c'est le sommeil.
Le sommeil, c'est un stéréotype, oui. C'est des histoires d'idées reçues. Voilà.
Oui, vous approuvez, Jacques Vallée?
Oui, c'est très ardu, ça m'éloigne du monde agricole. mais je réfléchis.
On va peut-être le retrouver vers la fin,
oui,
on ne sait jamais.
Je...
Hein.
Non, mais je rentre dans un univers...
Qui vous
formidable.
Est étranger, disons les choses.
Et parfois, on est dans des pathologies plus ou moins lourdes, parce qu'avec les dogues, on est dans la dyslexie. En tout cas, les dyslexiques. Hein.
Et oui.
Avec leur camouflage, parce que j'étais extrêmement honnête et je change de lettre. Donc, après Bouge, j'ai dû compter et j'en arrive à camouflage. Hein.
Pour Bouge,
le...
oui. Bon, c'est bien, c'est bien.
Ça,
non, mais
ça
Patrice Delbourg, qui n'est pas toujours aussi respectueux des nombres, des chiffres.
Je suis bluffé par cette honnêteté.
En même temps, honnêteté avouée permet bien des choses, non?
Bien sûr.
écoutant les chansons. Alors, les chansons du gardien du réveil. Alors, on va retrouver le gardien, mais il sera du réveil.
Ces chansons deviennent les circoncisions. Et on sait que ça fait peur en psychanalyse, puisqu'on est là avec son complexe de castration et ses peurs et ses angoisses.
Et le réveil.
Écoutant les circoncisions du génie du rire.
Ça, c'est le réveil.
Le réveil, c'est le rire. Alors, c'est bon de se réveiller en riant, surtout bien. Après une circoncision.
Ah oui, oui, oui. Et là, on va retrouver le coq, le beau coq vernissé qui reluit au soleil.
Le coq, alors le pauvre, il est mal là parce qu'il devient du crétinisme. Donc, une arriération, alors qu'il est le premier à chanter le matin. Mais là, c'est un coq un petit peu malade, je vous ai dit.
En même temps, le coq, il est un peu fanfaron. C'est pas toujours un personnage intéressant, le coq, qui reluit au soleil.
Au souvenir.
Une vache, alors on retrouve
une
notre vache.
Une verbigération, il rumine toujours notre vache.
Superbe, énorme, ça on touche pas, ce sont des adjectifs
rouges, on touche
pas.
Par contre, il change de couleur parce que et de café tacheté.
Ça, c'est pour le blanc.
Pour le blanc, ça devient du noir, le petit noir, le café, oui.
Et on a ça dans un dictionnaire de psychologie,
un café. Oui, parce que le café, il y a l'abus de café ou caféisme. Caféisme, c'est le caféinisme peut-être. Ce n'est pas une maladie, mais c'est une mauvaise habitude aux yeux des auteurs de ce dictionnaire.
Ah bon? Ouais. Là, on va rencontrer une biche avec ses jeunes fans.
Oh, mais la biche, ça devient une boulimie. Elle n'arrête pas de manger, de brouter, la biche, avec ses jeunes folies. Ça devient des folies, ça marche bien.
C'est charmant. Elle avait sous le ventre un beau groupe d'enfants. Ça, c'est la vache. Hein.
Oui, mais
on retrouve notre vache.
Ça va être un petit peu difficile parce que le ventre, ce n'est pas son rapport. C'est les viscérocepteurs. Alors, c'est des terminaisons nerveuses par lesquelles on ressent son propre cœur. Ou alors, c'est viscères.
Ah oui.
Oui, parce que je sens quand je gargouille. Mais comment je fais ça? Grâce à mes viscérocepteurs.
Eh bien, c'est évident.
Ben voilà.
Hein? Et le groupe d'enfants?
Un beau hachiche.
Oui.
Un beau hachiche d'ergonomie. Ah, je ne sais pas comment le hachiche va bien avec l'ergonomie, mais...
Ça, c'est le groupe d'enfants?
Oui, c'est un hachiche d'ergonomie.
C'est une jolie expression quand même, non?
Oui, oui. Ouais. Il faut avoir fumé pour comprendre.
Oui, voilà. C'est pour les initiés.
D'ergonomie au détecteur de mensonges.
Ça, ce sont les dents de marbre.
Oui, dents de marbre, détecteur de mensonges, de matriarcat. Alors, matriarcat, je trouve que rien ne va aussi bien à la vache que le matriarcat. Voilà.
C'est vrai.
C'est la mère par excellence.
Nourricière.
La vache.
Alors, aux cheveux en broussaille, quand même.
Au cinéma, en carence affective. Ben, c'est le cinéma aussi qu'on se fait à soi-même en psychologie, le cinéma. Mais on a vu aussi les rêves chez Hitchcock, donc on voit très bien le dessiné par Salvador Dali dans Vertigo. Donc on voit très bien le rapport entre psychisme et cinéma, entre vache et cinéma également. Mm-hmm. Mais malheureusement, c'est des carences affectives qui
c'est
leur
dommage,
tombent dessus.
Ça vous fait penser à La Vache et le Prisonnier, Patrice Delbourg, non? Vos références sur
non.
La Vache et le
à
cinéma.
Olga, plutôt serait... La Vache de Dubillard.
Ah, Olga, La Vache, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on saute au vers suivant.
Frais et plus charbonné que de vieilles mythomanes.
Ça, c'est pour les murailles.
Murailles, mythomanes, ça, on voit très bien que ça va ensemble.
Qui bruyant tous ensemble à grands cris appelants. Que sont les cris?
Alors, les cris deviennent des cubes, mais en fait, c'est un test qu'on fait avec des cubes. Il faut imiter des figures géométriques avec des cubes qu'on manipule. Ça, c'est un test, pas aussi célèbre que le Rorschach, mais c'est un test qu'on pratique beaucoup, notamment avec les enfants.
C'est pour savoir si on va bien.
C'est le service militaire aussi.
C'est quand tout tourne rond, vous pouvez manipuler vos cubes.
D'autres qui, tout petits, se hâtaient en tremblant, là, on ne touche à rien.
Je n'ai pas touché à d'autres parce que ça aurait donné barrage, mais encore dans un sens de test où on barre des lettres pour les tests d'attention, par exemple. Oui. C'est comme nos lipogrammes, on barre tous les A, par exemple.
D'accord. Donc
mais
on va
c'est
plutôt,
mieux d'autres
oui,
que
on
de
va
barrage.
Plutôt s'intéresser à la pitié et à la laitière qui viennent après.
Pitié devient un simple préjugé.
Dérobant sans pitié, dérobant sans préjugé, ça
sans
va tomber
préjugé.
Très bien.
C'est bien.
Ouais.
La tiers devient carrément la libido. Mais hélas, la libido absente.
Ah. Évidemment, parce qu'il faut garder l'adjectif de Hugo. Hein. Alors, sous leur bouche joyeuse et peut-être blessante, et sous leurs doigts pressant le lait parmi le trou. Il y a beaucoup de substantifs, il y a bouche, il y a doigt, il y a lait, il y a trou.
Alors, bouche, comme je dois, par honnêteté, tourner assez, ça devient la capacité, c'est-à-dire les aptitudes en général. Oui. Les doigts deviennent les échantillons. Ça, j'aime beaucoup, parce qu'on peut compter sur les doigts.
Et sous leurs échantillons, pressant le lait.
Alors, la lecture.
Parmi le trou.
Alors là, j'ai vraiment pas fait exprès. Honnête comme je suis, je tombe sur 1000 vaginismes. Mais voilà, j'ai pris ce dictionnaire, donc je ne peux pas m'y dérober.
Mais c'est pas un choix innocent non plus, le choix du dictionnaire. C'est vrai. Tirer le pis fécond de la mer au poil roux.
Alors pour le pis, c'est parfait. C'est le principe de plaisir-déplaisir. Alors pour téter, on est dans le stade oral de Freud et dans son principe de plaisir.
Alors on tète quoi? Parce qu'on ne tète pas le lait.
Non, des plaisirs féconds, de la microsociologie au prestige roux.
Bon, alors on retrouve notre bonne vache sur son divan, elle, bonne et puissante, et de son trésor pleine.
Alors c'est vagabondage.
Trésor, pas sauvé.
Vagabondage. Premier mot de V, c'est vagabondage, qui lui va très bien à ma vache qui erre pour sur l'herbe.
Et puis être pleine de son vagabondage, c'est assez joli.
Qu'elle rumine après.
Mais on l'a perdue, la vache, depuis un moment.
On vient de la retrouver avec elle, sous la forme du pronom personnel.
Parce que je ne la trouvais plus.
Ah ben, elle est noyée, elle est en train de se faire soigner par le psy. Elle en a pour 20 ans. Sous leurs mains, par moments.
Sous leur masochisme.
Oui.
Par moments, je garde tel quel.
Oui, pourquoi pas. Faisant frémir à peine son beau flanc, plus ombré qu'un flanc de léopard.
Alors, son beau foyer protégé. Pour flanc, c'est bien foyer protégé. Oui. Sauf que ça signifiait à l'époque des centres, des espèces de sas où, avant de rejoindre la société, les malades qui sortaient des établissements psychiatriques pouvaient se réhabituer à la vie en groupe.
Ah oui.
Donc c'était ça, un foyer protégé.
Et léopard alors?
Alors léopard devient lobotomie. Mais essaye de me lobotomiser à léopard, il ne va pas se laisser faire, à mon avis. C'est le...
On ne touche pas à la fin, distraite. Regarder vaguement quelque part.
Oui, lobotomiser, c'est après.
Alors,
le regard est vague.
Je ne sais pas si Victor Hugo va résister à ça, la psychologie. Mais en tout cas, nous, on apprend plein de choses. Patrice Delbourg prend des notes.
Oui.
Alors, on vous écoute. Faites-nous sonner l'alexandrin, quand même, qui ne sera plus un alexandrin.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'expressions.
Je le sais,
La verbigération. Devant la blanche forme, où parfois vers midi la virilité vient s'asseoir sur la sexualité attiédie, où sans principe de réalité gaiement mêlent leur culpabilité rouge, où génie du stéréotype, les dyslexiques dans leur camouflage, écoutant les circoncisions du génie du rire, du beau crétinisme vernissé qui reluit au souvenir. Une verbigération était là, tout à l'heure arrêtée. Superbe, énorme, rousse et de café tacheté, douce comme une boulimie avec ses jeunes folies. Elle avait sous le viscérocepteur un beau hachiche d'ergonomie au détecteur de mensonges de matriarcat, au cinéma en carence affective, frais et plus charbonné que de vieilles mythomanes qui bruyant tous ensemble à grands cubes, appelant d'autres qui tout petits se hâtaient en tremblant, dérobant sans préjugés quelques libidos absentes. Sous leur capacité joyeuse et peut-être blessante, et sous leurs échantillons pressant la lecture, mille vaginismes tiraient le principe de plaisir des plaisirs féconds, de la microsociologie au prestige roux. Elle, bonne et puissante et de son vagabondage pleine, sous leur masochisme, par moments faisant frémir à peine son beau foyer protégé, plus ombré qu'un foyer protégé de lobotomie, distraite, regardait vaguement quelque part.
Ça fait sens quand même un peu, hein? Vaguement.
J'ai plus du Jacques Lacan que de Victor Hugo, mais bon, ça s'écoute.
Oui, Jacques Vallée.
Mais ça donne envie d'aller consulter.
Ah bon, c'est vrai?
ground. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hair. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago.
Bob Dylan, Le Petit Rimailleur illustré. Nouvelle séance de travail sur notre dictionnaire papou et en vers de la langue française. Tous les mots seront un jour traités, quelle que soit leur place dans l'alphabet. Du A de artiste au Z de zéphyr, en passant par le M de maboule. Mais traités en toute subjectivité et sous la forme d'un poème. La versification étant au choix du rédacteur, octosyllabes, décas, alexandrins, à dire ou à chanter. Et pour compléter le point de vue de celui qui définit, un contrôleur veillera au grain, les yeux dans un bon dictionnaire classique. Le mot au programme du jour, le substantif rentrée. Hervé Le Tellier, je vous ai confié la rentrée.
Oui. Et ouais. J'ai eu une chance incroyable.
Mais c'est vrai, c'est oui, vrai. Vous en êtes conscient, j'en suis contente.
Parce que je suis tombé sur un premier jet de Raymond Queneau qui s'appelle 100 000 milliards de rentrées.
Ah.
Et qui sont donc toute une série de sonnets sur la rentrée, découpés en languettes.
Ouais.
Et si je puis me permettre, je vais vous en lire quelques-uns qui sont le résultat d'un tri parmi les languettes.
Avec plaisir. Bien. Et vous connaissez Gérard Mordillard.
Bonjour Gérard.
Bonjour. C'est notre contrôleur sur la rentrée.
Il y a une chose très belle au début de la définition du dictionnaire qui est presque un vers, qui dit « retour en un lieu d'où l'on était sorti ».
Eh c'est vrai.
C'est un alexandrin magnifique, oui.
Le retour en a lieu d'où on était sorti, c'est magnifique.
Mais voilà, donc ça va très bien avec l'idée d'un sonnet.
Voilà.
Et on vous écoute, Hervé Le Tellier.
Ah, donc je vais d'abord me manipuler les languettes. Hein,
oui, absolument. Trier les languettes. Tri.
Voilà. Bon, alors ça, c'est un sonnet un peu tiré au hasard, j'en suis désolé, mais c'est le principe même. Hein. Tandis que la navette effectue sa rentrée, entrant en rougissant dans la haute atmosphère, l'auteur se voit privé de rentrée littéraire. Son livre paraîtra pour celle de janvier. Le député breton prépare sa rentrée, rentrée de bon aloi pour le parlementaire. La presse peut parler de menaces de guerre, mais sans rentrée fiscale, il faudra emprunter. On admire beaucoup la proue du brise-glace. La fille du second fait sa rentrée des classes. L'embouteillage est là, aux rentrées de vacances. Le paysan gascon fait sa rentrée des foins, mais de rentrée et de fonds, hélas, il n'aura point. Et sans rentrée d'argent, il a besoin d'avance.
Ah bah oui, c'est un peu triste.
Un peu abscon, comme souvent le résultat d'une manipulation d'un système comme ça.
Oui, bien sûr. Non, mais le fond est un peu grave.
Ben oui, attendez, dans 100 000 milliards de poèmes, le fond est très grave. On comprend que Queneau soit allé sur des rimes en is et en ose pour faire un deuxième texte. Mais je vous donne quand même une deuxième manipulation. Je mets mes languettes. Quand l'astronef martien réussit sa rentrée et survole en planant notre planète Terre, triomphale n'est pas la rentrée littéraire. Trop de livres noyés au sein d'une flopée. Pas de rentrée fiscale imprévue cette année. La politique humeur est plutôt délétère. Les ouvriers font grève, les patrons des affaires. La rentrée pourrait bien être mouvementée. Du chevalier Teuton, on aime la cuirasse. L'acteur fait sa rentrée avec beaucoup de classe. L'embouteillage est là, ô rentrée des vacances. Le paysan gascon fait la rentrée des foins. Là, j'ai mal mélangé les languettes. J'en suis navré. Il doit bien lui rester quelques sous dans un coin. Qui est prêt aujourd'hui à mourir pour la France ?
Ah oui.
Évidemment. Des doigts se lèvent autour de la table.
Oui, j'ai vu. Je vous remercie d'ailleurs. C'était un appel qu'on m'a demandé de faire. Donc, c'est un texte plutôt intéressant. Je peux vous lire un troisième si vous voulez, mais ça va redonner des choses qu'on a peut-être déjà entendues.
On croisera différemment une autre fois, Gérard Mandilla.
Mais dans tous ces croisements, toutes les rentrées sont là. Là, il y a une citation d'Aragon qui parle d'une rentrée au bercail, donc très bien. Mmh. Alors, peut-être on aurait pu mettre un peu, mais c'était le hasard du tirage, quelque chose d'un peu plus exotique, puisque justement, la rentrée d'un acteur après une certaine absence, ce que nous a magnifiquement interprété Hervé, puisque après une certaine absence sur scène, le revoilà au premier plan, se dit un comeback. Et une rime en hack aurait peut-être soudain éclairé certains passages.
Morbac, Ubac, enfin des choses élégantes.
Voilà, Attac, Alftrac, on peut mettre toutes ces choses-là. Mais sans ça, il y a aussi, et là j'ai trouvé ça très beau, l'allusion aux Martiens, puisque justement c'est la phase de vol d'un engin spatial permettant d'entrer dans l'atmosphère, et c'est l'angle d'entrée qui est la rentrée de cet objet, et donc métaphoriquement il y a là quelque chose qui fait rêver.
Il en a parlé, mais bien sûr, je le disais
avec admiration d'avoir sorti
et on peut féliciter Queneau d'avoir déjà, dans une époque bien ancienne, considéré la rentrée spatiale comme étant quelque chose.
Absolument. Il était visionnaire. Ah, oui. Gérard Mandilla a une petite citation dans le dictionnaire.
Oui, il y avait celle d'Aragon. Il y en a une qui n'a pas beaucoup d'intérêt, de Radiguet, qui dit pour préparer sa rentrée politique. Alors je pense que là aussi, Radiguet, ça a été tiré au sort. On a dit Radiguet, pourquoi pas Radiguet ou Radiguet. Voilà, Duhamel ne devait pas être là, mais c'est très bien.
C'est tout ce qu'il y a sur la rentrée.
Ça doit être radical plutôt que
Radiguet. Oui, radical. Oui, c'est un dictionnaire très maigre sur la citation pour la rentrée.
Hervé Le Tellier, content ?
Oui, très très content. J'ai une citation de Queneau, qui est exactement la 11e languette que je vais vous dire.
Oui.
L'embouteillage est là, aux rentrées de vacances.
Bah oui.
On voit bien les arondes,
les déesses,
les déesses, les unes derrière les autres,
les dauphines,
les quatre chevaux.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, quand un papou lit un autre papou. Et puis, parlons-nous de la même œuvre, oui, mais à mots couverts, et en compagnie d'Odile Conseil, de Jean-Bernard Pouy, de Ricardo Mosner et de Patrice Minet. Et enfin, le droit de réponse d'un héros invisible. Quand un papou lit un autre papou, mon premier papou, Patrice Delbourg, a lu le livre d'un autre papou, Serge Joncourt, comme nous tous d'ailleurs au papou dans la tête, mais c'est lui, Patrice, qui nous raconte L'écrivain national de Serge, paru chez Flammarion. Patrice Delbourg, on commence par le décor.
Comme on le dit dans les films de Michel Audiard, ici, c'est pas la mer, c'est pas la montagne, c'est même pas la campagne. fichue verdure cannibale. Ah, cet enfer ordinaire de la végétation qui végète. Au cœur d'un démoniaque labyrinthe vert, voilà le Morvan et ses inquiétants massifs forestiers, qui devient illico sous la plume de l'auteur, une province reculée de l'Amazonie. La forêt s'y perd en coups fourrés. Les grands arbres, c'est comme les flics au carrefour, il faut s'en méfier. La futaie est un monde à part avec ses lois et ses secrets qui excluent les petits futaies. L'odeur de la terre humide monte, l'humus, le compost, la giboulée qui matraque les branchages, les feuilles qui grelottent, oui, les feuillus sont ici de pauvres êtres, comme vous et moi, des chênes, de ceux qu'on abat, des châtaigniers, des bouleaux, des charmes aussi. Et l'auteur qui arrive, par le train, comme toujours dans les romans de Joncourt, l'auteur n'en a pas trop de boulot. Il est loin aussi de se porter comme un charme. Il n'ose plus guère rentrer chez lui car, comme le murmure encore la chanson, son passé y rôde encore. Il fuit son désamour avec Elena, son ancienne compagne, en écumant dorénavant les salons du livre. Dame, 4 semaines de résidence d'auteur à l'initiative de 2 libraires qui aiment ses livres, qui ne s'en réjouirait pas ? Une coupure salutaire dans la vie sédentaire et répétitive du scribe. Une villégiature qui pourrait être requinquante, une sorte de cure de chlorophylle. Seulement voilà, le fait divers sordide taraude déjà en lisière de sous-bois. L'auteur arrive par le train à Donzières, village fantomatique qui pourrait s'appeler Corbigny, Monsauche-les-Seutons, Bourbon-Lancy ou Lorme. Certes, la Nièvre, l'endroit ne lui est pas inconnu, sa famille n'est pas loin. 2000 âmes à tout casser. Les corbeaux volent à l'envers pour ne pas voir le marasme ambiant. De ci, de là, des auberges sombres et sépulcrales où l'on se brûle les doigts sur des verres de vin chaud. Du viandox, même, parfois. Du viandox. Le personnage du récit ressemble comme 2 lattes de contreplaqué à l'auteur. Il s'appelle même Serge. Bombardé écrivain national, comme aime à le préciser le maire du village, avec une pointe de sarcasme à peine voilée. Banquet, discours des édiles, l'écrivain est d'abord sujet de curiosité, puis parasite, et vite un gêneur. Les malentendus s'accumulent. Dame, le loustique plumitif a des yeux pour voir, il observe, et il ne se prive pas de scruter comme Conrad Lorenz avec ses canards, ou Émile Zola avec ses mandataires des Halles. Il croque le Joncourt, il consigne, il sait diablement bien faire parler ses personnages. De guingois de profil à l'égyptienne, l'auteur est un kleptomane de l'instant dévié. Dévié Joncourt, oui, je sais.
Oui, c'est facile.
C'est facile,
hein.
Allez,
oui.
Je le retire. Accueilli, choyé, nourri, il pourrait vite devenir le gendre idéal de la région s'il ne se mêlait de jouer son rouletabille. Une disparition, un meurtre peut-être, un certain commodore, un vieux maraîcher, un ancien du Tonkin, sans doute retraité argenté, gourou de secours, pour des néo-ruraux à la ramasse, un couple d'associaux, de marginaux, un certain Aurélic déjà en tôle sur fond de culture de cannabis, et la troublante Dora, Dora, au milieu de la clairière, de longues jambes de contrebande, un pétrousquin d'anthologie impeccablement moulé dans son jean, et aussi, oui Eva, un troublant timbre hongrois.
Oui.
C'est dans le livre. Superbe, fatale, le genre de fille qu'on a envie de consoler d'un chagrin qu'elle n'a même pas. Le séjour d'agrément vire vite à la psychose dans les tourbières. Le précédent opus de Joncourt s'appelait « L'amour sans le faire ». Mais là, Serge, enfin, le personnage, s'y colle et c'est chaud, brûlant comme de la braise dans la boue et le vent glacial. Derrière les volets clos, doucement, la normalité quotidienne se dérègle. Et on bascule dans le cauchemar éveillé. On le sait, Joncourt, notre Joncourt. Les situations délicates, c'est son domaine, son club privé. Il connaît toutes les martingales de ses instants savonneux. On ne reviendra pas sur son côté Monsieur Hulot, le versant Pierre Richard du ci-devant Papou. Au début, on pense qu'il en fait trop, qu'il surjoue. Mais il est comme ça, sur la page, comme dans la vie, tel un frelon étonné qui tambourine contre la vitre. Sa légendaire bonhomie en porte-à-faux avec ses contemporains est même devenue sa marque de fabrique. Jamais à l'aise le Lascar, c'est pas le genre monsieur sans gêne. Éternellement décalé, le bourgeois décalé, aurait dit son libraire qu'il reçoit et qui a toujours le mot pour rire. Dans ce marigot en forme de charade, il fait chaud, il fait froid. Les mots mettent des coupe-vents, les adjectifs portent cache-colle. Question confort de lecture, on est bien. On est à l'aise dans les phrases de Joncourt, comme dans des chaussures qui ont été faites par des marches, au dénivelé étudié. Le style est souple, boisé, avec de subtils méandres musicaux. Dans une ambiance poisseuse comme un seau de coltard, à pied, à bicyclette ou en guimbarde, l'écrivain détective va ausculter les broussailles. Le soir, il revient face à ses lecteurs, les bas de pantalon crottés, le blouson déchiré des griffures de ronces ensanglantent son visage. De ci, de là, l'auteur nous livre de belles confidences, tout particulièrement sur le charme impersonnel des chambres d'hôtel. Ah, la douce complicité des lieux de transit. Ah, le confort immédiat d'un lit tiré au cordeau. Ah, marcher pieds nus sur la moquette bouclée. Le café brûlant qui vous arrive sur l'oreiller. Le journal sur le seuil. Le petit linge qui revient. Nickel ! Quelque part, on croise cette phrase. Et si être écrivain, c'était tout faire pour garder la chambre ?
À lire L'écrivain national de Serge Joncourt, et c'est chez Flammarion. Hector Varela, l'espion. Parlons-nous de la même œuvre, oui ou non, mais de toute façon, à mot couvert. Qui aime bien, raconte bien. Odile Conseil a eu envie de nous parler d'une certaine œuvre, livre, film, tableau, on ne sait pas. Elle en a parlé avec tout son cœur, mais sans dire le titre de l'œuvre en jeu. Jean-Bernard Puy a joué sur ses traces. Qu'il ait compris ou pas, Jean-Bernard est un joueur né et il a parlé à son tour de ce qu'il croyait avoir deviné. Et ainsi fit Ricardo Mosner, chacun optant pour une certaine forme de récit. Patrice Minet, qui suivait Ricardo, a-t-il compris la même chose ? Eh bien, nous le verrons, nous remonterons avec lui la chaîne des malentendus. Odile Conseil raconte, mais comme elle est malicieuse, l'Odile, elle veille à ne pas être trop transparente.
Évidemment.
On ne triche pas à ce jeu.
Certainement pas.
Bon, on vous écoute.
Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Elle avait quelque chose d'un ange. On ne pouvait que l'aimer sans mélange. Vraiment pas du genre sainte ni touche. Toujours une chanson à la bouche. Capable aussi de tenir tête à son patron. Homme un peu bête, un employeur un peu coincé qu'il s'agira de dérider. On eût aimé qu'elle craquât pour le jeune homme passant par là. Un garçon vraiment épatant, bourré jusque-là de talent. Un homme orchestre, un Père Noël qui danse sa vie sur une échelle. Il est parfois un peu cracra, mais c'est le métier qui veut ça. On eût aimé qu'elle restât, qu'elle prît ses quartiers ici-bas pour dispenser sa médecine, faire régner la discipline dans cet esprit gai et charmant qui la caractérise tellement. Car les autres sont grises et noires, des cerbères qu'on ne veut plus voir, sèches, revêches et mal foutues. D'ailleurs, pfft, elles ont disparu. Dans cette histoire, on se promène sur les toits ou dans des parcs, même à l'occasion sur un plafond, en se tapant bien le bidon. Étrange, dites-vous. C'est parce qu'ici, ce n'est pas tout à fait la vraie vie. Il y a comme un air de magie. Et pourtant, l'on frémit aussi face aux austères banquiers, du genre rapace et sans pitié, qui, pour obtenir vos 3 sous, tendent une avide main vers vous, prêts à créer une panique pour vous piquer tout votre fric. On eût préféré qu'ils périssent, qu'au fond de l'enfer ils rôtissent. Mais non, les voici convertis par la grâce de celle qui, de cette histoire, est l'héroïne. J'aimerais qu'elle fût ma cousine, ou ma jumelle, ou ma sister. Je suis comme elle dans mon cœur. Et pourrais finir en chantant comme on le fit en débutant. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Patapam, patapam. C'est tout à fait charmant. Jean-Bernard Puy, vous prenez l'air sévère.
C'est charmant, mais c'est pas mon truc. Hein.
C'est pas votre... Non, ça, je pense pas. Si elle parle de ce à quoi je pense, je sais que c'est pas votre
non.
truc du tout. Bon, attendez. Allons-y doucement entre Odile et vous. Le passage s'est fait ensuite avec Ricardo Mosner. Puis en dernier, il y avait Patrice Minet. Patrice Minet, vous avez eu entre les mains le texte de Ricardo Mosner, qui était ce qu'il est.
Hein. Oui,
on va le découvrir tout à l'heure. Mais là, vous venez d'entendre comme nous la première mouture de l'œuvre,
oui,
racontée par Odile Conseil. Ça éveille quelque chose par rapport à ce que vous venez de lire de Ricardo ?
Très honnêtement, rien du tout.
Ça m'étonne pas. Donc il y a une déperdition au niveau de Jean-Bernard Pouilly, apparemment.
C'est la faute à Jean-Bernard Pouilly.
C'est toujours de ma faute.
Bon, Jean-Bernard Pouilly, cette œuvre, vous venez de le dire, n'est pas très proche de votre univers.
Mais c'est justement parce que j'ai découvert quelle était cette œuvre que je peux dire qu'elle n'est pas proche de mon univers.
Mais vous allez en parler quand même.
Absolument.
Mais à votre façon.
Exactement. Une critique de cinéma.
Oui.
Avec l'âge, j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux. Je confonds tout. Les héros, les héroïnes, les cocos, les cocaïnes. Tout ce que je sais tient dans un constat. Pour tous les films, c'est grave, on ne peut pas confondre un western avec une adaptation de Marguerite Duras. Quoique, il n'y a qu'un genre où mélanger les motifs est admis, les comédies musicales d'origine amerlocaine. Ah, il y a toujours la princesse, la boniche, la secrétaire Nunuche, la veuve, l'amante délaissée, et il y a toujours le peintre en bâtiment, le livreur de pizza, le groom Benet. Et avant qu'il ne convole, il faut se cogner un tas d'airs musicaux du genre subliminal, mais qui vous rentrent dans le cortex et vous poursuivent la vie entière. Vous ne pouvez plus entrer dans un supermarché sans entendre cette sorte de scie qui vous accompagnera jusqu'au cercueil. Et c'est ici encore une fois le cas. L'héroïne est belle, charmante, spirituelle, et elle a une voix divine. Même si elle a quelques dons surnaturels, elle n'en profite jamais. Et ne passe son temps qu'à tenter de faire le bonheur autour d'elle. Elle fera également le bonheur du pauvre garçon que rien ne prédestinait à devenir l'élu de son cœur. Donc, comme d'habitude, ce n'est pas la peine d'aller voir ce film. Il vaut mieux se procurer la bande-son, sous forme de CD, et l'écouter tous les dimanches, et avec ravissement, chez soi, en passant l'aspirateur ou en surveillant la cuisson des nouilles. Car c'est à ça que peut se comparer le scénario d'une comédie musicale.
Oh non,
c'est déjà ça.
Vous êtes injuste.
Je suis un critique de cinéma.
Ah oui, non. Mais vous ne parlez pas du même film que Odile Conseil.
Mais
non.
Je les mélange.
Non,
non. Je les mélange. Hein? Il y en a deux, mais je les mélange.
Oui, d'accord, Odile, avec moi.
Absolument.
Bon. Bon, Ricardo Mosner, moi, je trouve le texte de Jean-Bernard Pouilly très, très clair.
Oui, oui. Mais Jean-Bernard Pouilly, c'est un surréaliste. Il parle comme ça dans une autre...
dimension.
Voilà, oui, oui, c'est vrai qu'il fait des transpositions, des métamorphoses.
Mais alors, ce dont il parle, vous est apparu clairement?
Oui,
vous?
Oui, oui, oui.
Et donc, vous en parlez à votre tour?
Oui, à mon tour.
De quelle façon, sous quelle forme?
Bah, c'est les streamings, c'est une publicité d'un film court, donc c'est un résumé court, avec quelques images, une publicité pour encourager les gens...
Aller voir le film.
Parce que lui, il dit tout à l'envers. C'est quelqu'un qui a l'esprit des contradictions pour bien faire ressortir l'essence de l'œuvre.
Il n'a pas l'air content de ce que vous dites de lui, Jean-Bernard Pouilly.
J'attends.
Vous la verrez, noire de chez noir, les dents en avant, elle est la version féminine du mal. Avec ses serviteurs toujours prêts à se sacrifier pour elle, la palichonne aux yeux révulsés, toute la populace y passera, au son des opéras germaniques et du heavy metal. Elle est insatiable, son pouvoir est éternel, mais elle souffre et la froid. Vous serez pris du début à la fin par cette histoire à vous geler le sang. Un vent froid souffle et vous pénètre. Amateur des sensations fortes, ne ratez pas ça. Indagada David, don, 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 don. C'est ça qui vous rentre dans la tête, il ne vous sort plus.
Moi, j'avais l'impression qu'il parlait d'une chose beaucoup plus riante que ce dont vous parlez. Hein. Vous êtes un peu noir dans vos interprétations.
Ah, mais bah, comme le sens de Pouilly.
Comme le sens de Pouilly. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, Jean-Bernard Pouilly?
J'ai jamais l'impression d'être trahi.
Non.
Surtout par Ricardo, alors, encore moins.
Non. Odile Conseil, vous avez l'impression qu'il parle de la même œuvre que vous?
J'ai l'impression qu'une sorte d'océan sépare nos deux descriptions, nos deux projets.
Oui, je comprends mieux que Patrice Minet se soit noyé dans l'océan, évidemment. Patrice Minet, je vous confie le texte de Ricardo Mosner et vous allez nous dire à quoi il vous fait penser, à quelle œuvre, et nous donner quelques arguments, bien sûr.
On peut déjà, en première remarque, constater que Jean-Bernard dit aux gens de ne pas aller au cinéma,
oui,
et que Ricardo les envoie plutôt à la séance. Hein.
Oui, oui.
Voilà. J'avais une idée assez précise et qui n'était pas seulement cinématographique.
Oui.
C'est-à-dire que l'œuvre ou les œuvres auxquelles je pensais, qui se réfèrent à ce personnage central, sont à la fois des romans, des BD et du cinéma.
Ah, oui.
Voilà. Et il y avait...
Il y avait tout ça dans le texte de Ricardo.
Oui, et il y avait aussi une forme d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on pouvait penser à plusieurs personnages.
Oui. Voilà. Et vous avez opté pour lequel ?
Il y en a un que je trouve formidable, mais qui ne s'y recollait pas tout à fait. Parce que dans le texte de Ricardo, il y a « dans en avant »,« noir de chez noir »,« les yeux révulsés »,« insatiable et éternel » et évidemment « glacer le sang ».
Oui.
Voilà. Donc, j'ai pensé d'abord à Alien, qui a vraiment les dents en avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça sort de sa bouche, ça fait 3 mètres. Et puis, je me suis dit, non, ce n'est pas ça, parce qu'il y a aussi un côté féminin plus marqué, plus sexuel même. Et donc, j'ai pensé à un personnage que j'aime beaucoup, que je lisais beaucoup quand j'étais petit, qui s'appelait Vampirella.
Ah, Vampirella. Donc, ce serait une aventure de Vampirella.
Voilà.
Mais chantée, parce qu'il y a quand même un élément musical dans le texte de Ricardo Rosselli.
Mais peut-être qu'il y a peut-être eu des comédies musicales avec Vampirella.
Peut-être.
Je n'ai pas tout vu. Hein.
En tout cas, c'est argumenté. C'est argumenté, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Vallée ?
Mais moi, je vais très peu au cinéma. Je connais très peu le cinéma. Et puis, comme je vois que ces personnes parlent de la même œuvre, mais que ça n'a rien à voir de l'une à l'autre, je trouve que j'ai bien raison de ne pas aller très souvent.
Bon, Ricardo Mosler... Patrice Minet pense que vous avez parlé de Vampirella.
Bah, il a raison.
C'est quoi ?
C'est ce film qu'on a fait des milliers, c'est toujours la même version, mais là c'est Dracula, mais en femme. Donc soit c'est la fiancée de Dracula, soit c'est, je ne me rappelle pas le nom, Draculine,
Draculette.
C'est Dracula en femme. Et y en a plein de choses qui sont très claires dans les...
Moi, je le trouvais assez prime sautier, le texte de Jean-Bernard Pouy, critique par rapport à cette prime sauterie, mais enfin...
Oui, de toute façon, c'est pas très loin, la comédie musicale
de Dracula.
De Dracula, même la Polanski, il a fait le
bal des vampires.
Donc, y a toujours aussi Princesse, la Borniche, la Mante, les gens qui passent, c'était... Il y a toujours des gens autour qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans ces châteaux et qui arrivent pour donner, dans les films de fond, évidemment exprès, pour donner aussi un peu de l'atmosphère de ce qui se passe en dehors de ce monde clos du vampirisme. Donc il y a toujours des personnages qui arrivent et qui sont susceptibles d'être mordus dans les coups et pompés de leur sang. Donc on avait soin de tous ces gens-là autour.
Très bien. Bon, c'est argumenté, Jean-Bernard Pouy. Vous avez parlé de Dracula ?
Absolument pas.
De quoi avez-vous parlé ?
Je parle de comédie musicale, effectivement.
Mais laquelle ?
Mais attendez, comme je déteste les comédies musicales,
vous avez tort.
J'ai du mal à me souvenir. Alors j'hésite entre les deux plus nuls, c'est-à-dire Mary Poppins et
La Mélodie, et du, la bonheur.
Mélodie du Bonheur.
Mais vous parlez de La Mélodie du Bonheur, puisque vous parlez du père qui tombe amoureux.
Oui, d'accord, mais enfin, elle m'a trompé. Le mec qui danse sa vie sur une échelle et parfois un peu cracra, c'est un ramoneur.
Absolument.
Donc, le ramoneur, il n'est pas dans La Mélodie du Bonheur.
Non.
Il est dans l'autre.
Ah, bon.
Alors, c'est pour ça que j'étais...
En tout cas, vous avez pensé à La Mélodie du Bonheur.
Plus à La Mélodie du Bonheur qu'à Mary Poppins. Mais
avec la sublime Julie Andrews.
Oui, mais c'est pareil. On peut mélanger les deux films. C'est bon.
Non, dans La Mélodie du Bonheur, il y a 7 enfants. Dans Mary Poppins, il y en a 2. Il ne faudrait pas tout confondre, quand même.
Ouais, c'est pareil, ils sont chiants.
Vous pensiez à quoi, vous dites le conseil ?
À Mary Poppins, en effet.
Ben voilà. Et c'est la même comédienne, c'est Julie Andrews.
C'est absolument la même comédienne.
Tout va bien. Oui.
Donc elle a son parapluie, un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Elle a quelque chose d'un ange puisqu'elle arrive de où ? Du ciel.
Ouais.
Capable de tenir tête à son patron, c'est Mr. Banks, l'homme qui l'emploie, elle impose ses règles. Donc on eût aimé qu'elle craquât pour le jeune homme, effectivement. Ça ne se finit pas par un mariage puisqu'elle s'envole. Elle repart avec le vent quand le vent tourne. Et Bert, le beau Bert, reste là à la regarder, à lui faire un clin d'œil. Tout ça est très très chaste. Il n'y a pas du tout, effectivement, ni de mariage, ni de... Et il danse sa vie sur une échelle, c'est la grande scène, effectivement, des ramoneurs.
Et la formule magique, elle apparaît où dans votre texte ?
Elle n'apparaît pas, car...
Il semblait bien.
Mais elle apparaît dans le mien.
Supercalifragilistique.
Je parle de don surnaturel.
Supercalifragilistique, expialidocien.
Bon, écoutez, Mary Poppins, La Mélodie du Bonheur.
Dracula.
Là, il y a une grosse bifurcation avec Dracula.
Non, j'insiste à que c'est Dracula, puisqu'il fera également les bonheurs du pauvre garçon... qui va être l'élu de son cœur. Et on sait très bien que la personne qui aime et qu'il veut la sauver, il finit pour le planter en clou dans le cœur, en crucifix.
Mais avant, t'es mordu, toujours.
Ah bah oui, non, mais la morsure, il y est. Elle parle de choses subliminales.
Faut être mordu de part, oui.
En tout cas, il y a une grande cohérence finalement entre Dit Conseil et Jean-Bernard Puy, hein, Mary Poppins, La Mélodie du Bonheur. Là, il y a une énorme bifurcation avec Ricardo Mosner qui passe à Dracula et cohérence avec Patrice Minet qui pense à Vampirella. Donc il y a deux histoires, il y a deux mondes. Hein. Le monde se divise en deux.
Je préfère les films de vampires, moi.
Ah ouais, moi j'adore les comédies musicales.
Nous sommes deux, Françoise.
The Wizard of Oz et toutes les comédies musicales formidables avec Judy Garland, Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rogers.
Magicien d'Oz.
Appelez le SAMU, Jean-Bernard Puy se trouve mal. Bah,
dès qu'on prononce le mot de magicien d'Oz, j'ai un défibrillateur dans les parages parce que là, c'est...
Et donc, cette chanson est dédiée à Jean-Bernard Puy.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. The rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Le Magicien d'Oz, version Nina Hagen. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, le droit de réponse avec Patrice Minet et Lucas Fournier. Pour un personnage de fiction comptant combien de malheureux, de frustrés, d'invisibles, comme le petit pois dont tout le monde parle dans le conte d'Andersen, mais que personne ne voit parce qu'il est caché sous la pile des matelas où se trouve la princesse. Pourtant, sans lui, pas d'histoire pour faire rêver les petits-enfants. Et je crois que c'est un peu le cas du héros représenté par Patrice Minet. Il n'est pas heureux. Qui êtes-vous, Patrice ?
Je suis un personnage de théâtre. L'acteur qui me joue n'a pas de gros cachet. Je suis Godot.
Ah, oui, alors, évidemment, oui, c'est un ratage absolu. Enfin, d'un certain point de vue pour l'acteur.
De son point
évidemment.
De vue, c'est oui. à la fois un ratage. Mmh. Et alors donc, il écrit à son auteur Samuel Beckett. Tous les soirs, j'écoute le public, je me demande qui va jouer mon personnage. Où est l'acteur qui me joue? Qui est l'acteur? Pourquoi n'est-il jamais venu aux répétitions? Je relis la pièce, on m'attend. Les personnages m'attendent, le public m'attend. L'auteur, je veux le croire, m'attend aussi. Moi aussi, je m'attends. Je préférerais m'attendre à rien, je m'attends à tout. Je ne connais pas mon texte, car l'auteur ne l'a pas écrit. Je regarde les autres personnages entrer en scène. Je suis dans la loge des acteurs, je me regarde dans le miroir. Ah ah, je n'y suis pas. Il y a une brochure de votre pièce en attendant Godot. Je la feuillette, je m'intéresse, je lis, je me lis, je me passionne, on m'attend, je m'attends, j'attends, je me redouble de patience, je me pose la question. On écrit une pièce qui s'appelle Godot, c'est-à-dire moi, en m'attendant moi. Les spectateurs se déplacent jusqu'au théâtre, ils payent leur place, ils s'assoient, le noir se fait dans la salle, les acteurs entrent, sortent, jouent des personnages, ils se perdent en conjectures sur mon absence. Personne ne vient les soulager, mon personnage ne vient pas délivrer le public de son angoisse. Et dans la loge, pendant que j'écoute les autres personnages souffrir de mon vide, je poudre mon absence de nez, je coiffe mes cheveux imaginaires, je relis cette putain de brochure qui porte mon nom en vain. Je suis un trésor de patience, mon heure viendra. Quand ? J'erre dans les coulisses, l'oreille aux aguets, des fois qu'on prononcerait mon nom. On le prononce, l'oreille aux aguets, des fois qu'on m'appellerait, jamais. Un jeune garçon doit entrer en scène pour dire que je viendrai peut-être demain. Mais abruti, je peux venir aujourd'hui, tout de suite, pourquoi attendre demain? Le jeune garçon entre pour dialoguer avec les autres, il m'a vu. Il voudrait dire, Godot est là, il attend dans les coulisses, prêt à paraître sur les starting blocks. Mais le pauvre petit est prisonnier de son texte, alors... Après une lutte entre sa langue, son esprit, la volonté de l'auteur, sans compter sa mémoire, qui se souvient sûrement m'avoir vu à quelques mètres derrière le décor il y a 3 secondes, il est vaincu. Son bon sens implose, il abdique et murmure. « Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il ne viendra pas ce soir, mais sûrement demain. » Menteur ! J'ai jamais dit ça ! Au rage, au désespoir, quel sentiment d'impuissance ! Vous, monsieur Beckett, inspiré par mon personnage, vous m'avez rendu muet, absent, fantomatique. Le plus merveilleux des personnages de théâtre n'entre jamais en scène. Samy, pourquoi m'as-tu laissé tomber ? À la fin de la pièce, le même garçon entre pour dire que je ne viendrai pas ce soir. Tu parles d'un scoop ? C'est écrit. On n'y peut rien changer. L'enfer, c'est d'attendre en coulisses, prêt à entrer, sans jamais y être autorisé. Être dans les limbes. Monsieur Beckett, écrivez une autre pièce que je puisse y entrer. Je ne vous décevrai pas, votre créature Godot.
Ce qui est formidable, c'est qu'il continue d'attendre dans les coulisses. Oui, c'est une constance.
Il fait son métier.
Ah oui, il fait son métier.
Il est au théâtre.
Et il est payé finalement.
Alors ça, il faudrait lui demander.
un vrai intermittent.
Il ne paye pas de sa personne, en tout cas.
C'est épouvantable. Lucas Fournier, vous seriez Beckett, j'y crois pas trop en posant la question.
Effet,
je ne sais pas pourquoi, mais...
Je suis un collègue de Godot, parce que je suis aussi un personnage de théâtre.
Oui.
Et j'ai trouvé sa lettre dans ma loge.
Ah bon ? Mais vous jouez, vous ?
Oui, j'ai été touché par sa lettre et je lui réponds tout de suite. Cher Godot, je suis Rodrigue.
Ah.
Non pas le sémillant Rodrigue de « À qui venge son père, il n'est rien d'impossible ». Non, l'autre. Le Rodrigue de Claudel, du soulier de satin.
Évidemment, c'est pas la même chose. Oui.
C'est moi qui ai pris ta place en quelque sorte, je suis dans ta loge. Comme tu le sais, nous succédons à En attendant Godot, dans ce même théâtre, mise en scène d'Olivier Py, 11h. La pièce est sous-titrée « Le pire n'est pas toujours sûr ». Oui, hélas. Ton créateur, ton maître Samuel Beckett a vu la pièce, le soulier de satin, et il a été, je le sais, touché par la grâce, cette grâce claudélienne plus dense que la grâce mauriacienne, plus lourde que la grâce bernanosienne et plus intense que la grâce à la Peggy. Alors lui, le brave soldat Beckett, Il a vu ce qu'il advenait de mon personnage pendant 11 heures à débiter du texte comme un compteur électrique qui tourne quand le lave-linge est en cycle long, 11 heures à faire des scènes qui s'étirent comme les fils de la soupe du fromage, 11 heures à souffrir dans l'attente infinie, l'attente absolue, l'attente intolérable, attendre, pas tendre et l'ennui, attendre pour que les répliques cessent enfin, pour que ce soulier trouve chaussure à son pied, pour que ses amours enfin s'achèvent, pour que le rideau tombe, pour que la pièce en finisse, pour que tout s'arrête. Alors un sentiment puissant de charité le prit.
On n'est pas couché.
Et Beckett a pensé.
Moi, c'est ça que j'aime bien chez Claudel, c'est que c'est ample.
Oui, on peut s'installer. Oui.
Et Beckett a pensé ce que Claudel a infligé à son personnage et qu'aucune bête au monde n'aurait pu supporter, je ne le ferai pas. Non, et dans son cerveau fécond, il a conçu l'anti-Rodrigue, le personnage dont l'acteur n'a à craindre d'avoir ni des trous de mémoire dans des monologues longs comme la Bible, ni des toux du public assoiffés après 4 heures immobiles, ni des grincements de strapontins écrasés par des spectateurs qui ne trouvent pas le sommeil, le personnage pur et parfait qu'aucun mauvais acteur ne flétrira, qu'aucun critique injuste ne vouera aux gémonies, toi Godot, éternel absent. Non, Godot, l'enfer n'est pas d'attendre en coulisses sans jamais y être autorisé, c'est d'abord de ne pas pouvoir sortir de scène. Godot, tu es là, partout en ce théâtre, libre à jamais libre, et moi, Rodrigue, mon destin est d'aller me jeter dans la Seine.
Ah, on le comprend. Le spectateur du premier rang s'est endormi. Réveillez-vous, Hervé.
Ah, c'est fini, c'est servi.
C'est fini, on applaudit. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Manuel Couturier. À télécharger sur franceculture.fr, c'est l'offre podcast pendant 1 an. À réécouter sur la page des papous du 19 octobre pendant 1000 jours. Page sur laquelle vous pouvez glisser vos remarques, questions, suggestions. Rubrique commentaires des papous du jour. Et puis, promenez-vous sur nos pages Vie du Club et les livres des papous pour tout savoir, ou presque, des activités des membres de notre petite bande quand ils ne jouent pas aux papous. On se retrouve dimanche à 12h45. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie d'Antoine Perrault. Dans quelques instants, c'est Tire ta langue. Au revoir, passez un très bel après-midi sur France Culture. Oh, 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 oh.